Je pense que, comme moi, vous avez eu l'occasion de visiter un des châteaux de la Loire ou un autre lieu intéressant sous la conduite d'une personne compétente. C'est, ma foi, un événement banal. Ce qui l'est moins est l'expérience du prophète Ézéchiel qui a eu le privilège d'examiner dans ses moindres détails le futur temple qui sera construit au début du règne de 1000 ans de Jésus sur terre. Le chapitre 41 de son livre continue cette visite avec un être angélique pour guide. Je commence à le lire en compressant tout au long. « L'homme me fit ensuite entrer dans la grande salle du temple. » Verset 1. Il s'agit du lieu saint où Ézéchiel avait accès parce qu'il était prêtre. Après avoir pris quelques mesures, l'ange pénètre ensuite dans le lieu très saint où seul le grand prêtre avait accès une fois par an pour le jour du grand pardon appelé Yom Kippour. Cette pièce a la forme d'un cube et ses dimensions sont les mêmes que le lieu très saint du temple de Salomon. L'ange continue ses mesures et Ézéchiel écrit que l'intérieur des murs du sanctuaire est garni d'un lambris de bois jusqu'à la hauteur des fenêtres et on avait sculpté des chérubins et des palmiers. Un palmier entre deux chérubins. Chaque chérubin avait deux faces, une face d'homme tournée vers l'un des palmiers et une face de lion tournée vers l'autre. Depuis le sol jusqu'au-dessus de la porte, il y avait des chérubins et des palmiers sur le mur du temple. La porte de la grande salle était décorée de chérubins et de palmiers, comme les parois. Versets 18 à 20 et 25. Les chérubins sont les gardiens de la sainteté divine. Ici, ils n'ont que deux faces, l'une d'homme et l'autre de lion, pour représenter l'humanité et la royauté du Messie. Je continue. Devant le lieu saint, il y avait quelque chose qui ressemblait à un autel de bois haut de 3 coudées et long de 2 coudées. Ses coins, son socle et ses parois étaient en bois. L'homme me dit, « Voici la table qui est devant l'Éternel. » Verset 22. Cette table de bois de petite dimension placée à l'extérieur du lieu très saint ne remplit pas la fonction d'un autel. C'est à la fois la table qui portait les pains exposés devant l'Éternel et l'autel des parfums, 2 meubles qui se trouvaient dans les temples précédents, mais qui n'existent pas dans celui-ci. Cette table, qui est encore mentionnée plus loin, fait penser à un repas pris en famille. Elle symbolise une plus grande intimité que par le passé dans la célébration du culte. Je finis le chapitre 41. La grande salle et le lieu saint avaient chacun une double porte à 2 battants pivotants. Versets 23 et 24. Le voile qui séparait le lieu très saint du lieu saint a disparu et est remplacé par une simple porte à 2 battants. Cette facilité d'accès rappelle que le chemin qui mène à Dieu est désormais ouvert à quiconque veut bien se donner la peine d'entrer. Nous arrivons au chapitre 42 qui décrit les structures sur 3 étages situées le long des murs sud, nord et ouest du sanctuaire qui servaient de salle à manger et de vestiaire aux prêtres. De tels locaux n'existaient pas dans les temples précédents. Je lis un extrait. L'homme me dit, les salles du côté nord et celles du côté sud qui donnent sur l'espace libre sont les salles du sanctuaire où les prêtres qui officient pour l'Éternel mangeront les aliments très saints. C'est là qu'ils les déposeront, ainsi que l'offrande de gâteaux et la viande des sacrifices pour le péché et des sacrifices de réparation, car ce lieu est saint. Verset 13. Les prêtres avaient le droit de manger certaines parts des animaux sacrifiés. Je continue. Une fois entrés, les prêtres ne sortiront pas du lieu saint pour aller dans le parvis extérieur sans avoir déposé là les vêtements avec lesquels ils auront fait le service, car ces vêtements sont saints. Ils revêtiront d'autres habits avant de s'approcher des parties réservées au peuple. Verset 14. Ce commentaire montre le souci d'une séparation stricte entre la sphère du sacré et celle du profane. Je continue et finis le chapitre 42. Lorsque l'homme eut ainsi achevé de mesurer l'intérieur du temple, il me fit sortir par la porte orientale et il mesura l'enceinte tout autour de l'édifice. Il mesura les 4 côtés. Il y avait là une muraille dont la longueur et la largeur faisaient 500 coudées pour séparer le sacré du profane. Versets 15 et 20. Au début de la visite, l'ange a mesuré la hauteur et l'épaisseur du mur extérieur, qui forme un carré de 3,40 m de côté, puis il a mesuré le parvis extérieur, c'est-à-dire la cour intérieure, une fois qu'on entre dans le complexe du temple. Sur trois côtés et contre le mur se trouvent 30 salles, dont 20 sont pour l'usage des Lévites et 10 pour les serviteurs du temple. Ensuite, l'ange a mesuré le parvis intérieur, aussi appelé cour des prêtres, parce qu'il donne accès au lieu saint du sanctuaire. Puis, il a aussi mesuré tous les locaux réservés aux prêtres. Maintenant, il prend les dimensions de l'enceinte extérieure, qui est un carré d'un peu plus de 280 mètres de côté. La description du complexe du temple et des bâtiments annexes qu'il contient est terminée. Mais avant de passer aux détails des différentes cérémonies qui seront célébrées, Ézéchiel nous fait voir l'Éternel qui vient personnellement consacrer par sa présence le nouvel édifice qu'il promet d'habiter à tout jamais. Cette vision de Dieu qui entre dans sa maison nouvellement construite est le pendant de l'entrée de l'Éternel dans le tabernacle et dans le temple de Salomon. Ce retour est aussi la contrepartie de l'abandon du temple par l'Éternel avant que Jérusalem ne soit détruite par Nabuchodonosor. Je commence à lire le chapitre 43. « Puis l'homme me conduisit vers la porte orientale. Alors la gloire du Dieu d'Israël arriva par le côté est. Sa voix était comme celle des grandes eaux et la terre était illuminée de sa gloire. » Versets 1 et 2. L'entrée orientale était la porte d'honneur du temple parce qu'elle conduisait directement au sanctuaire. La gloire de Dieu revient de l'est, la direction vers laquelle elle était partie. Soit dit en passant que la gloire de l'Éternel n'était pas revenue dans les temples de Zorobabel et d'Hérode. Je continue plus loin. L'Esprit m'enleva et me transporta dans le parvis intérieur. La gloire de l'Éternel remplissait le temple. Verset 5. C'est la troisième fois que ce phénomène se produit. Il avait déjà eu lieu lors de la consécration du tabernacle et du temple de Salomon. Je continue. Tandis que l'homme se tenait toujours à mes côtés, j'entendis quelqu'un qui me parlait depuis l'intérieur de la maison. Il me dit, « Fils d'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai mes pieds et où j'habiterai pour toujours au milieu des Israélites. » Versets 6 et 7. Dès à présent, Dieu a ici-bas une habitation parfaite et permanente dont il prend possession pour toujours. Je continue. Et ni la communauté d'Israël, ni ses rois ne me mépriseront plus, moi qui suis saint, par leur prostitution et leur haut lieu, par les cadavres de leurs rois, en accolant le seuil de leur demeure contre mon seuil et les montants de leurs portes contre les miens, de sorte qu'il n'y avait qu'un mur mitoyen entre eux et moi. Oui, ils m'ont ainsi méprisé, moi qui suis saint, par des abominations qu'ils ont commises. C'est pour cela que je les ai consumés dans ma colère. » Versets 7 et 8. C'est une parenthèse douloureuse pour Dieu. L'expression « les cadavres de leurs rois » désigne les fausses divinités que les rois de Juda avaient installées dans le temple. En fait, à une époque, chaque entrée du temple était consacrée à une idole différente. Ces faux dieux sont appelés cadavres à cause de leur nature inerte et souillée par opposition aux dieux vivants. Le rappel de ce sacrilège, de l'insolence de l'intrusion de ces idoles provoque l'indignation de l'Éternel. Je continue. Désormais, ils éloigneront de moi leur prostitution ainsi que les cadavres de leur roi, et j'habiterai pour toujours au milieu d'eux. Verset 9. L'Éternel referme la parenthèse d'indignation et reprend sur un ton doux l'affirmation précédente comme quoi il habitera pour toujours au milieu de son peuple. Cette perspective agréable a calmé sa colère momentanée. Je continue. « Quant à toi, fils d'homme, décris ce temple à la communauté d'Israël pour qu'ils aient honte de leurs péchés et qu'ils mesurent les plans de cet édifice. » Verset 10. La description du nouveau temple saint que, dans son amour patient, l'Éternel élève et consacre aux Israélites, a pour but de les conduire à la repentance. Il veut aussi qu'ils mesurent les plans de cet édifice. Il s'agit d'une part des dimensions générales d'harmonie et de grandeur du complexe du temple, mais d'autre part, Dieu veut aussi que les Israélites mesurent, par rapport au don de sa grâce, l'étendue et la gravité de leurs péchés. Ensuite, Ézéchiel décrit en détail l'autel des holocaustes qui jusqu'à présent n'avait été mentionné qu'en passant. Il se trouve au milieu du complexe du temple et sera le point focal du nouveau culte. Il est constitué de trois parallélépipèdes superposés et assis sur une base. Leur surface diminue de l'un à l'autre jusqu'au sommet. C'est donc une construction en gradin d'aspect régulier. L'ensemble est carré et ses dimensions extérieures sont un peu plus grandes que l'autel du temple de Salomon qui faisait 5 mètres de haut et 10 de côté mais qui ne possédait pas de degré. Je continue le texte plus loin. L'homme me dit, fils d'homme, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Les prescriptions concernant l'autel pour le jour où il sera construit afin d'y offrir l'holocauste et d'y faire l'aspersion du sang sont les suivantes. Pendant 7 jours consécutifs, tu offriras chaque jour un bouc en sacrifice pour le péché, puis un jeune taureau et un bélier sans défaut pris dans le troupeau. Versets 18 et 25. Le texte donne tous les détails du rituel de l'inauguration de l'autel des holocaustes. La cérémonie décrite est analogue à celle célébrée lorsque le tabernacle, puis les temples de Salomon et de Zorobabel furent mis en service. Ils durèrent aussi 7 jours. Ceci dit, il existe quand même des différences dont je vous ferai grâce. Le texte mentionne aussi que du sel devra être jeté sur les holocaustes et probablement aussi sur tous les autres sacrifices. On comprend pourquoi quand on sait que dans les Écritures, le sel représente la sincérité et la force de caractère de quelqu'un qui demeure juste et droit quelles que soient ses circonstances. Je finis le chapitre 43. Une fois ces jours passés, les prêtres offriront sur l'autel le 8e jour et les jours suivants vos holocaustes et vos sacrifices de communion, et je vous accueillerai, le Seigneur l'Éternel le déclare. Verset 27. Une fois la consécration de l'autel accomplie, on peut adorer Dieu au moyen de sacrifices qui sont essentiellement des sacrifices de communion ainsi que des holocaustes, c'est-à-dire qu'après avoir été égorgé, l'animal est brûlé. Les premiers expriment la reconnaissance de l'homme pour toutes les bénédictions divines et les seconds symbolisent la consécration totale à Dieu. Les sacrifices d'expiation du péché ne sont mentionnés que lors des deux grandes époques de fêtes et sont offerts pour l'ensemble du peuple et pour purifier le sanctuaire. Dans tous ces chapitres sur le nouveau temple, les seules fautes spécifiquement mentionnées sont celles d'inadvertance et d'ignorance. Ce qui se comprend car le monde entier étant sous un régime théocratique, ceux qui ne marcheront pas droit seront sanctionnés immédiatement. Nous arrivons au chapitre 44 qui mentionne ceux qui auront accès au sanctuaire et qui décrit aussi les fonctions des prêtres. Je commence à le lire. L'homme me fit revenir du côté de la porte extérieure orientale du sanctuaire. Elle était fermée. Alors l'Éternel me dit, cette porte restera fermée, on ne l'ouvrira plus et personne n'entrera par elle, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, est entré par là. Elle restera donc fermée. Versets 1 et 2. Le guide d'Ézéchiel est appelé l'Éternel, ce qui semble indiquer qu'il s'agit de l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire la troisième personne de la Trinité qui devint homme en Jésus-Christ. La porte orientale qui donne accès à la cour intérieure, c'est-à-dire le parvis extérieur du complexe du temple restera toujours fermé pour honorer le fait que l'Éternel est passé par elle et pour indiquer qu'il n'en repartira plus. Ce serait le profaner que d'emprunter ce passage. Cette porte n'est pas à confondre avec la porte orientale de la ville de Jérusalem actuelle qui est aujourd'hui fermée. Je continue. Toutefois, le prince, en sa qualité de prince, s'y assira pour prendre son repas devant l'Éternel, il y entrera par le portique de la porte et sortira par le même chemin. Verset 3. La porte orientale extérieure qui donne accès au complexe du temple reste fermée, mais celle qui est dans son prolongement et qui s'ouvre sur la cour des prêtres, c'est-à-dire le parvis intérieur, cette porte est ouverte. C'est de là que les prêtres pénètrent dans le lieu saint du sanctuaire. Le prince ira bon où lui semble, sauf qu'il ne pourra pas franchir la porte orientale extérieure qui, comme je l'ai dit et répété, restera fermée pour honorer l'Éternel. Le prince est un personnage très important, bien que le texte ne dise pas grand-chose sur lui. Il peut s'agir du roi David lui-même ressuscité ou de quelqu'un de sa lignée qui occupe la fonction de vice-roi ou de régent et qui administre le royaume. Ce qui est sûr est qu'il ne peut pas être le Messie puisqu'il offre des sacrifices pour le péché, pour lui-même, et qu'il se prosterne devant l'Éternel. Je continue en compressant. Fils d'homme dit à ses rebelles, « C'en est assez de tous vos actes abominables, communauté d'Israël. Vous avez fait pénétrer dans mon sanctuaire des étrangers incirconcis de cœur et incirconcis dans leur corps afin de profaner mon temple. Vous ne vous êtes pas acquitté pour moi du service relatif aux choses saintes. Vous avez chargé des étrangers d'accomplir à votre place le service pour moi dans mon sanctuaire. Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Aucun étranger incirconcis de cœur et incirconcis de chair n'entrera dans mon sanctuaire. » Versets 5 à 9. Le contexte est celui de la prêtrise. Dans le passé, Israël a introduit des païens non circoncis, non convertis dans le temple lors de la célébration des sacrifices afin qu'ils y participent en qualité d'officiants, alors que seuls les lévites et surtout les prêtres avaient ce droit. Le péché des Israélites était donc double. Ils s'étaient déchargés d'un service sacré qu'ils jugeaient déplaisant et en avaient chargé des païens. Dorénavant, auront seulement accès au sanctuaire les prêtres qui sont aussi circoncis de cœur. Les Juifs et les païens qui entreront dans le royaume du Messie sont ceux qui ont placé leur foi en lui et qui ont échappé aux persécutions de l'Antéchrist. Ces personnes constitueront la population du monde, posséderont un corps, comme vous et moi, et auront des enfants qui se convertiront ou pas à Jésus-Christ. Dans le millénium, un juif au cœur incirconcis sera assimilé à un païen pur et dur, tandis qu'un étranger qui aura placé sa foi dans le Messie sera un enfant du royaume. C'est la circoncision du cœur et non pas celle de la chair qui est la condition requise pour participer au culte de l'Éternel. Je continue en compressant. Quant aux fonctions des Lévites qui se sont éloignés de moi lorsque Israël s'est égaré loin de moi pour se tourner vers ses idoles, ils porteront la responsabilité de leurs fautes. Ils assureront dans mon sanctuaire le service de portier et le service du temple. Ce sont eux qui égorgeront pour le peuple les victimes des holocaustes et des sacrifices, et ils se tiendront à la disposition du peuple pour le servir. Mais les prêtres lévites issus de Tsadok, qui ont continué à accomplir le service de mon sanctuaire quand les Israélites s'égaraient loin de moi, eux, s'approcheront de moi pour me servir et se tiendront devant moi pour m'offrir la graisse et le sang. Le Seigneur l'Éternel le déclare. Versets 10, 11 et 15. Dans le temple, seuls les descendants de Tsadok auront le droit d'officier en tant que prêtre dans la présence de l'Éternel. Les autres familles de prêtres sont déchues de leur position et ne pourront accomplir que des tâches subalternes parce que leurs ancêtres n'ont pas été fidèles à l'Éternel. La suite du texte jusqu'à la fin du chapitre 44 énonce ce qui est exigé des prêtres afin qu'ils soient rituellement purs. À quelques détails près, on retrouve ces prescriptions dans les livres de Moïse. Comme pendant le millénium, il n'y aura pas de grand prêtre, ce qui sous la loi était exigé de lui est dorénavant appliqué à la prêtrise tout entière. En dehors des fonctions du culte proprement dit, le devoir des membres du clergé était l'enseignement de la loi et la fonction de juge. Pour ce qui est des revenus des prêtres, ils seront conformes à ce qu'ils étaient sous la loi de Moïse. Dans le chapitre suivant, Ézéchiel aborde la question des héritages des prêtres et des lévites. Or, leur patrimoine ne sera pas comme celui des autres tribus qui vont chacune recevoir un territoire en Israël. Cette nouvelle partage du pays rappelle celui qui avait été effectué par Josué, le successeur de Moïse. Je commence à lire le chapitre 45 en compressant. « Quand vous répartirez le pays en lots, vous en réserverez une partie pour l'offrir à l'Éternel. Elle aura 25 000 coudées de long sur 10 000 de large. Elle sera sainte dans toute son étendue. » Un territoire de 25 000 coudées sur 10 000 de large appartiendra aux Lévites qui accompliront le service du temple. Ils y posséderont 20 sols. Versets 1 et 5. Adjacent à la ville de Jérusalem côté nord, un terrain d'environ 13,5 km de long dans le sens est-ouest sur 10,5 km de large sera séparé sur sa longueur en deux parties égales. Celle qui est attenante à la ville sera réservé au complexe du temple et aux habitations des prêtres. et la seconde qui lui est contiguë, côté nord, sera pour les Lévites qui travaillent au temple. À l'intérieur de celui-ci, 20 chambres leur sont réservées. Elles se trouvent sur le pourtour extérieur de la cour d'entrée, qu'on appelle le parvis extérieur. Les 10 autres, puisqu'il y en avait 30, sont pour les gardiens. Je continue. Pour la ville, vous délimiterez une bande de territoire de 5000 coudées de large sur 25000 de long. Elle appartiendra à toute la communauté d'Israël. Verset 6. Côté sud, et attenant au rectangle où se trouve le temple et les habitations des prêtres, au milieu d'un terrain de 2,5 km de largeur sur 10,5 km de long, la ville sera construite. Il s'agit de Jérusalem, bien qu'elle ne soit jamais expressément nommée. Ce sera la capitale fédérale et sa population se composera de représentants de toutes les tribus d'Israël et sans aucun doute d'ambassadeurs de toutes les nations. Je continue. Vous réserverez aux princes deux zones de part et d'autre du domaine du sanctuaire et du territoire de la ville, l'une du côté ouest, l'autre du côté est. La longueur de chacun de ces lots correspondra à celle des lots des tribus, depuis la frontière occidentale jusqu'à la frontière orientale. Ce sera son domaine, sa propriété en Israël. Versets 7 et 8. Les trois territoires décrits précédemment, le temple et les habitations des prêtres, les propriétés des Lévites et Jérusalem avec ses terrains, forment ensemble un carré de 13,5 km de côté. De part et d'autre de ce carré, les deux bandes de terrain, l'une allant à l'ouest jusqu'à la Méditerranée et l'autre à l'est jusqu'au Jourdain, seront la propriété du prince. Comme un petit croquis vaut mieux qu'un long discours, vous pourrez trouver un plan de ce que je viens de décrire dans certaines Bibles avec commentaires.